Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bonsoir à tous, quel plaisir de vous retrouver nombreux pour cette édition du journal sur Radio Kapi. Je suis Gisèle Cage et voici le titre. L'Union européenne exprime sa profonde préoccupation face à l'escalade continue du conflit dans l'est de la RDC. L'avancée incessante du M23 viole gravement les cessez-le-feu convenus et exacerbe la crise humanitaire, déplore l'Union européenne dans un communiqué publié ce samedi. Des cas de grippe ont été signalés dans plusieurs ménages de Mbujimayi dans la province du Kasaï oriental. Pas de panique, il s'agit pas d'une épidémie, rassure le médecin épidémiologique provincial. Les malades sont toutefois invités à suivre quelques précautions. La situation humanitaire au nord et sud Kivu s'est aggravée en raison de l'intensité des combats entre les troupes régulières et le M23. Pour en discuter, nous recevons aujourd'hui le coordonnateur humanitaire Bruno Lemarquis en exclusivité dans ce journal. C'est tout pour les titres. L'Union européenne exprime sa profonde préoccupation face à l'escalade continue du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo, exacerbée par la reprise de l'offensive du M23 soutenue par les forces armées rwandaises. Dans un communiqué publié ce samedi, l'Union européenne affirme que cette situation compromet gravement les efforts africains pour une résolution pacifique du conflit. Elle réitère son plein soutien au processus de Luanda et de Nairobi. Grâce à Mouzati pour les détails.
L'Union européenne condamne fermement la prise de la cité de Minova le 21 janvier, suivie de la prise des Sake le 23 janvier par le M23. L'avancée continue du M23 constitue une violation inacceptable du cessez-le-feu convenu et aggrave encore la crise humanitaire désastreuse dans l'est de la RDC, déclare-t-elle. Elle affirme que cette avancée a poussé d'autres personnes déplacées à l'intérieur du pays vers les camps surchargés autour de Goma, où plus de 800 000 personnes déplacées sont hébergées. La ville de Goma est soumise à une pression immense. La menace du M23 de conquérir Goma est inacceptable et a en soi des graves conséquences humanitaires et sécuritaires sur le terrain, déplore-t-elle. L'Union européenne exhorte le M23 à arrêter sa progression et à se retirer immédiatement. Elle réaffirme que le Rwanda doit cesser de soutenir le M23 et se retirer. L'Union européenne condamne fermement la présence militaire du Rwanda en RDC, qu'elle considère comme une violation flagrante du droit international, de la Charte des Nations Unies et de l'intégrité territoriale de la RDC. Elle continue d'exhorter la RDC à cesser de coopérer avec les FDLR et d'autres groupes armées. Elle réaffirme son soutien indéfectible à la MONUSCO, tout en précisant que toute attaque contre les forces mandatées par l'ONU est inexcusable. En outre, l'Union européenne examinera tous les outils à sa disposition afin d'amener les responsables du conflit armé, de l'instabilité et de l'insécurité en RDC à rendre des comptes, conclut le communiqué.
Le comité international de la Croix-Rouge CICR fait face à un afflux massif de blessés depuis le début du mois en cours sur les 3 projets qu'il supporte en termes de prise en charge des blessés par armes à Bukavu, Goma et Beni. Les capacités d'accueil deviennent insuffisantes par rapport au nombre de blessés qui nécessitent l'hospitalisation. Cette triste réalité pousse le CICR à envisager la possibilité d'ajouter une nouvelle institution hospitalière sur la liste des hôpitaux qui l'accompagnent dans la prise en charge des blessés par balle. Cette pratique facilitera le désengorgement des hôpitaux que le CICR supporte dans les 2 villes du sud Kivu et du nord Kivu, annonce faite par le responsable du projet hôpital du CICR, Euman Emmanuel, dans ses propos recueillis par le service de communication du CICR Bukavu et relayé par Jean Kassami.
À Bukavu, nous sommes aujourd'hui à 111 patients, tout en notant que depuis le début janvier, pour une capacité de 110 lits, nous avons été au-delà. Donc la situation est complexe. Les blessés ne font que affluer sur les hôpitaux. La pression se met sur les ressources humaines, sur les installations, sur la stratégie mise en place. En plus des renforcements des capacités des lits que nous avons fait sur le projet, nous sommes en train de voir s'il faut faire une extension, supporter un autre hôpital en vue de désengorger les hôpitaux que nous supportons. Et c'est plus de 99 patients qui ont été pris en charge depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui à Bukavu. Au niveau de Beni, nous avons 15 lits. nous sommes constamment au-delà, environ 19 à 20 patients par jour. Au niveau de Goma, d'une capacité de 146 lits, aujourd'hui nous avons presque 225 patients qui sont hospitalisés.
En Nord Kivu, depuis hier soir, la ville de Goma subit une coupure d'électricité aggravée. Les affrontements sur l'axe Kibumba, territoire de Nyiragongo, ont endommagé la ligne de Virunga Energy. Cette situation survient seulement trois jours après des dégâts similaires sur la ligne haute tension de la SNEL coupant l'électricité de Bukavu à Goma, dans la zone de Nzulo, territoire de Masisi. Selon Kembo Amnasi, président des boutiquiers de Goma, cette situation perturbe déjà les activités économiques de la ville, comme il l'a confié à Bernard Nyangi.
La coupure de l'énergie électrique de la SNEL et de Virunga, au niveau des opérateurs économiques, exactement, ça va créer vraiment un impact négatif. Ça sera un manque à gagner aux opérateurs économiques, surtout dans le secteur de l'hôtellerie. Tous les hôtels fonctionnent avec l'énergie, aussi avec des entreprises, magasins, boutiques aussi, fonctionnent aussi avec le courant électrique. C'est pourquoi vraiment nous ne savons pas quoi faire. Peut-être nous souhaiterions que ça puisse être rétabli rapidement, afin que les opérateurs économiques puissent continuer de faire des activités commerciales. Mais à défaut de cela, ça va nous impacter négativement dans les jours qui viennent, dès la jour à venir. Hein, c'est ça. Et quand ça vient d'affecter la population, nous allons toujours prier pour qu'ils puissent nous rétablir les courants dans la ville de Goma.
Le directeur général de Virunga Energy dit évaluer d'abord la situation, mais dans un communiqué officiel rendu public samedi soir, M. Ephrem Balolé indique que ses équipes pourront intervenir sur les réseaux des Matébé coupés au niveau de l'axe Kanyamahoro Kibumba dès que la situation le permettra. À Beni, ce samedi, l'unité de police constituée indienne de la MONUSCO à Beni a généreusement fourni un important lot de médicaments au centre hospitalier de la police nationale congolaise à Beniville. Cette initiative vise à garantir une prise en charge médicale optimale des policiers et de leurs familles. André Kitenge a assisté à cet événement marquant.
Ce lot de médicaments est constitué des antipaludéens, antibiotiques, anticoagulants, vitamines et des différents types de sérums. L'assistante médicale du centre hospitalier de la police nationale congolaise dans la ville de Beni s'est réjouie de ce don qui va pallier aux difficultés de ravitaillement en médicaments. Micheline Ekangaza.
Les médicaments des spécialités, on va faire les soins essentiels. Ces médicaments vont beaucoup servir surtout les gens de la PNC et leurs compagnons et la population aussi. Les médicaments vont plus nous aider pour différentes pathologies. Aussi, le fait qu'il y a toujours le retour des médicaments, nous avons la difficulté de ravitaillement pour soigner les éléments PNC.
Le commissaire principal, Faustin Ishaï Motoabouania, le commandant adjoint de la police chargé des opérations et renseignements, salue, lui, la bonne collaboration entre la MONUSCO et la police nationale congolaise.
Les relations que nous avons avec la MONUSCO, ça me donne de la joie parce que ces gens ici ne manquent même pas à nous venir à l'aide. Même à leur hôpital, nous arrivons, on nous soigne même gratuitement. Ça vient ajouter sur les lots que nous avons qui vont aider les éléments de la police qui tombe souvent malade. J'en suis vraiment content.
André Kitenge, Beni Radio Okapi.
L'Organisation des Nations Unies relocalise temporairement son personnel non essentiel de Goma, tel que le personnel administratif et d'autres qui peuvent continuer à accomplir leurs tâches depuis un autre lieu en réponse à la détérioration de la situation sécuritaire au Nord Kivu. Dans un communiqué de presse ce samedi, la MONUSCO indique que cette mesure vise à garantir la sécurité du personnel tout en maintenant les opérations essentielles de l'ONU dans la province du Nord Kivu. Grâce à Mouzati.
Selon ce communiqué, cette relocalisation n'affecte en rien l'engagement indéfectible des Nations Unies à fournir une aide humanitaire et à protéger les civils au Nord Kivu. Le personnel essentiel reste sur le terrain pour assurer la continuité des opérations critiques telles que la distribution de l'aide alimentaire, l'assistance médicale, l'hébergement et la protection des communautés vulnérables, précise ce communiqué de la MONUSCO. Le communiqué indique que l'ONU collabore étroitement avec ses partenaires humanitaires et les autorités nationales pour garantir que l'aide vitale parvienne à ceux qui en ont le plus besoin et prévenir toute menace contre les civils. Ainsi, la relocalisation temporaire du personnel sera réévaluée en fonction de l'évolution de la situation sécuritaire dans l'objectif de restaurer pleinement la présence dès que les conditions le permettront, ajoute le communiqué. Les Nations Unies réaffirment leur engagement profond envers les populations du Nord Kivu et de la RDC, renouvelant leur soutien à la paix, à la stabilité et au développement dans la région.
Je le disais dans les titres, au Kasaï oriental, plusieurs ménages de Mbujimayi signalent des cas de grippe. Cependant, le médecin épidémiologiste provincial, docteur Jean-Pierre Sumba, assure qu'il ne s'agit pas d'une épidémie. Les données de structures sanitaires ne confirment pas une telle situation. Néanmoins, les malades doivent suivre certaines précautions. Docteur Jean-Pierre Sumba s'est exprimé au micro d'Esther Ndalafina.
La grippe apparaît de manière saisonnière. Nous avons des cas qui sont vraiment comptés sur la ville, mais nous ne sommes pas au niveau, on peut dire qu'au niveau de la province, nous sommes dans une épidémie de grippe. Non, il y a quand même des cas de grippe tels que nous les voyons de manière ordinaire. Bien sûr que parmi les cas, il y a des cas qui sont aussi graves et qui sont pris en charge, mais nous ne pouvons pas parler d'épidémie dans ces cas ici. Par rapport à l'attitude qu'il faut prendre lorsqu'on a la grippe, la première chose à faire, c'est de se reposer. Vraiment, on dort même, on dort un peu plus de force à l'organisme pour bien travailler et lutter contre la maladie. Il faut éviter le courant d'air. Il faut éviter le froid. Lorsqu'on prend le bain, il y en a qui vous conseillent le bain tiède, le bain chaud, le bain froid, tout ça, ça dépend du moment. Mais il faut éviter l'eau froide. Il faut également boire beaucoup d'eau régulièrement lorsqu'on fait la grippe. Parce que le plus souvent, dans la grippe, c'est accompagné de fièvre. C'est différent des rhumes. Lorsque vous faites des rhumes, vous n'avez pas la fièvre. Mais le plus souvent, lorsqu'on fait la grippe, on a aussi des douleurs. Alors on peut prendre du paracétamol par exemple. Donc ces trois grands éléments-là, le repos, la prise de beaucoup d'eau et prendre un antidouleur, ça permet vraiment à l'organisme de se rétablir un peu plus vite.
En Ituri, les marchés de Bounia subissent une flambée de prix du poisson. Depuis quelques jours, pour certaines variétés, les prix ont grimpé de plus de 50%, même depuis le camp de pêche du lac Albert. Cette hausse est attribuée à la recrudescence de la pêche illicite sur les lacs, selon le président de la Fédération des comités de pêcheurs du lac Albert. Sadiq Aboubakar nous en dit plus.
La consommation du poisson commence à devenir un luxe pour de nombreuses familles à Bounia. Depuis quelques mois, le prix de cette denrée, désormais rare, ne cesse d'augmenter jour après jour. C'est ce qu'explique Moïse Well, le président des pêcheurs au lac Albert.
Entre les mois de juillet, août et septembre, les prix d'un kilogramme de poissons frais variaient entre 6 et 8 000 francs. Mais aujourd'hui, un kilo de poissons frais s'achète à Tchoumé et Kassigne au lac Albert entre 13 et 15 000 francs congolais. Si déjà la source et les prix a presque doublé, quel sera le prix au marché de Bounia?
Cette femme au foyer que nous croisons au marché des Ambiaya à Bounia n'en peut plus de cette hausse vertigineuse du prix des poissons.
Avec 10 dollars, on achetait les poissons, on achète les légumes, mais pour le moment, on vient avec 10 dollars, on achète seulement les poissons. Il n'y a pas moyen d'acheter les légumes, des tomates, des épices, tout ça, c'est devenu compliqué.
Le président des pêcheurs explique que cette situation est due à la pêche illicite sur les lacs Albert.
La hausse des prix est due à la rareté des poissons au lac, et cette rareté est due par le fait de l'utilisation à outrance des filets moustiquaires dans la pratique des pêches. Et malheureusement, ce sont des militaires de la force navale qui les font. Un militaire peut disposer de 5 voire 7 barques de moustiquaires.
Nous n'avons pas pu avoir la réaction de la force navale à ce sujet. Bounia, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Lors d'une plénière tenue hier, l'Assemblée provinciale du Kwilu a validé le mandat de 8 députés provinciaux récemment élus dans la circonscription de Massimanimba. La session présidée par le professeur Oscar Saman Olutu, président du bureau provisoire, s'est déroulée au siège de l'hémicycle provincial à Bandundu. Les députés validés sont Blanchard Malutana, Eric Muziazia, Trifon Kinkei Mulumba, Donald de Sindani, Félicien Lupemba, Jean-Philbert Mabaya, Kikatanguma et Kiosa. À cette occasion, le président du bureau d'âge a exhorté les élus et leurs nouveaux collègues à se distinguer par la production dédiée pour le développement de la province du Kwilu. Entre-temps, le nouveau président du Conseil national de l'Ordre national des experts comptables s'est fixé un objectif ambitieux, faire de l'ONEC un pilier de la bonne gouvernance et de la transparence financière. Il a annoncé ce vendredi, lors de la cérémonie officielle d'installation du nouveau Conseil national élu en décembre dernier. Jean-Marie Toumba Kabalambi a souligné que les experts comptables doivent jouer un rôle central dans la gestion des finances publique. On l'écoute dans ses propos recueillis par Jacques-Yves Moulima.
À travers le nouveau mandat qui s'ouvre, nous devons nous appuyer sur le plan stratégique. Au niveau national, faire de l'ONEC un pilier de la bonne gouvernance et de la transparence financière. Protéger et pérenniser la réforme sur la certification des états financiers. Créer une commission dédiée au secteur public. Les experts comptables doivent jouer un rôle central dans la gestion des finances publiques en collaborant avec les institutions telles que la Cour des comptes et d'autres organes de l'État. Au niveau international, poursuivre activement notre adhésion à l'IFA. Cette adhésion demeure une priorité stratégique pour aligner notre ordre sur les standards internationaux, renforcer notre crédibilité et ouvrir de nouvelles opportunités à nos membres. En tant que président de l'ordre, je m'engage avec l'appui des membres du Conseil national et de tous les experts comptables à poursuivre les efforts pour bâtir un ordre encore plus fort et respecté, capable de répondre aux défis de notre époque.
Actualité internationale.
Le président Vladimir Poutine, lors d'une interview à la télévision russe, a tendu la main à nouveau ce 24 janvier à son homologue américain, se disant prêt à une rencontre pour régler les questions ukrainiennes, proposition qui va dans le sens des intentions de Donald Trump, mais qui inquiète l'Ukraine. Kiev dénonce une vaste manipulation. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé vendredi Vladimir Poutine de chercher à manipuler Donald Trump après que l'homme fort du Kremlin s'est félicité du retour au pouvoir du milliardaire républicain à la Maison Blanche et s'est dit prêt à le rencontrer pour négocier sur l'Ukraine. Il veut manipuler le désir du président des États-Unis d'Amérique de parvenir à la paix, a déclaré Volodymyr Zelensky dans son message quotidien sur les réseaux sociaux.
L'invité.
Bruno Le Marquis, coordonnateur humanitaire en RDC, a conclu hier sa mission de 5 jours dans l'est du pays. Dans un entretien exclusif avec Radio Okapi, il évalue sa mission et aborde la dégradation de la situation humanitaire au nord et au sud Kivu due à l'intensité des combats ainsi que les interventions humanitaires en cours. Bruno Le Marquis s'entretient avec Denise Loukesso.
Monsieur le coordonnateur humanitaire Bruno Le Marquis, bonjour.
Bonjour et bonjour aux auditeurs de Radio Okapi.
Vous venez de boucler votre mission de 5 jours dans la partie est de la République. Comment évaluez-vous sur l'ensemble votre mission?
Je vais peut-être commencer par l'Ituri où nous avons passé 2 jours. Du point de vue de la situation sécuritaire et humanitaire, nous nous sommes également rendus sur Inga Barrière. D'une manière générale, il y a un certain calme en ce moment en Ituri, sauf bien sûr dans le territoire de Djougou et puis vers le sud de la province de l'Ituri avec le groupe ADF. Bonne nouvelle, il y a certains territoires où la situation s'est relativement stabilisée ces derniers temps grâce à tous les efforts du gouverneur, des forces armées, des forces de sécurité congolaises qui travaillent de manière très étroite avec la MONUSCO. Du point de vue de la situation humanitaire, il reste quand même 1,4 million de déplacés dans la province de l'Ituri. C'est là vraiment le territoire où il y a le plus de défis sécuritaires, le territoire de Djougou, où là les besoins restent très très élevés avec énormément de déplacés, beaucoup d'entre eux dans des familles d'accueil. Les acteurs humanitaires sont pleinement mobilisés pour répondre aux besoins des populations déplacées. Au niveau de la zone de Béni, du point de vue humanitaire également, beaucoup de besoins, notamment du fait de l'activisme du groupe ADF, qui récemment a repris ses activités dans des territoires d'où il avait été absent depuis plusieurs années. Et il est également apparu dans d'autres zones où il n'avait jamais été actif. Donc il y a beaucoup de victimes civiles du fait des ADF, beaucoup de déplacés. C'est une situation également très grave du point de vue humanitaire. Ensuite, c'est la situation du sud Kivu et autour de Goma avec la dernière offensive du groupe M23. En termes des besoins humanitaires, bon, il y avait déjà énormément de déplacés qui étaient présents autour de Minova, territoire de Calais. Beaucoup de ces déplacés ont dû se redéplacer du fait de l'avancée du M23. 78 000 personnes ont fui les combats actifs dans le territoire de Calais au sud Kivu. On est en train de se réorganiser comme acteurs humanitaires pour pouvoir accéder à ces populations dans le besoin. Les acteurs humanitaires restent pleinement mobilisés pour appuyer ces personnes.
On sent de plus en plus la situation s'est dégradée au nord Kivu, tout comme au sud Kivu. Avec ces nouveaux déplacements, ça peut avoir quel impact humanitaire?
Bon, l'impact humanitaire, c'est des nouveaux déplacements de population, notamment de population qui a été plusieurs fois déplacée déjà, donc des gens extrêmement fatigués, des gens qui sont dénués de tout, donc ils doivent reprendre leur petit baluchon et rebouger une xème fois. Des impacts en termes de protection de risque, la protection des civils. On pense notamment aux personnes qui bougent de l'ouest vers l'est, qui sont maintenant dans la banlieue très proche de Goma, une zone avec énormément d'hommes en armes, et puis les risques, compte tenu de l'évolution de la situation, de gros risques sur la protection des civils. Il y a des problèmes d'accès humanitaire sur lesquels on travaille, compte tenu de l'évolution rapide de la situation. Nous sommes en train de faire des évaluations, des analyses sur les besoins humanitaires, sur nos capacités de répondre, puisque les acteurs humanitaires également sont affectés par cette situation, donc les capacités de réponse. Et puis nous faisons également des scénarios, puisque nous ne savons pas quelle direction cette situation va prendre, mais on doit se préparer au niveau des acteurs humanitaires, au niveau des Nations Unies. Nous sommes sur terrain, nous faisons le maximum pour assurer la sécurité de nos personnels, mais nous sommes là, aux côtés de la population, pour apporter notre assistance.
Oui, les combats se sont intensifiés dans la partie du territoire des Kalehe. Certains humanitaires ont suspendu momentanément leur mouvement dans cette zone. Avec quelles conséquences sur les communautés locales et les déplacés qui bénéficiaient de cette assistance?
Alors, quand il y a des combats actifs, on ne peut pas travailler, donc on s'adapte, on attend que la situation de combat soit terminée, et ensuite on reprend les activités. Compte tenu des mouvements, de l'évolution de la situation, des mouvements actuellement en cours, on se réadapte, nous discutons pour toujours avoir l'accès humanitaire, donc pour que trouvons les voies et moyens pour accéder aux populations qui en ont besoin. Nous suivons de près les déplacements de population, où est-ce qu'elles sont, quels sont les besoins, etc. Et puis on mobilise, notamment avec le concours de OCHA, on mobilise les acteurs humanitaires, on essaye de coordonner, on priorise pour que notre réajustement corresponde aux besoins des populations.
Monsieur Bruno Lemarquis, je rappelle que vous êtes le coordonnateur humanitaire. Radio Okapi vous remercie.
Merci beaucoup et merci toujours aux auditeurs de Radio Okapi pour leur fidélité à Radio Okapi.
Ainsi s'achève ce journal sur Radio Okapi. Il a été mis en onde par Billy Landry Betou, Jude Mister Bilanda, à la coordination Gisèle Cage à la présentation. C'était un plaisir de vous informer. Passez une agréable soirée en compagnie des programmes de Radio Okapi.